Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Criton est un court dialogue philosophique de Platon, consacré aux derniers jours de Socrate après sa condamnation à mort par la cité d'Athènes. Dans cette édition classique et si philo, le texte est accompagné d'un dossier destiné à faciliter son étude, notamment dans le cadre de l'enseignement de la philosophie au lycée. L'action se limite à une conversation en prison entre Socrate et son ami Criton, venu lui proposer une évasion rendue possible par des soutiens extérieurs. L'enjeu n'est pourtant pas l'organisation pratique de la fuite, mais l'examen rationnel de sa justice. Socrate refuse de décider sous l'effet de la peur, de l'affection ou de l'opinion publique. Il interroge les obligations d'un citoyen envers les lois, la valeur de la cohérence morale et la différence entre subir une injustice et en commettre une. Par sa forme dialoguée et sa situation d'urgence, l'ouvrage rend concrète une réflexion durable sur la justice, la légalité et le devoir. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une décision vitale soumise à l'examen de la justice, le point de départ du Criton est une situation où l'urgence pourrait sembler dispenser de réfléchir. Socrate est emprisonné, sa mort approche, et Criton lui offre une possibilité crédible de s'évader. Les arguments de l'ami sont humains et immédiats à abandonner ses proches. Laisser croire que ses amis n'ont rien fait, renoncer à ses enfants et accepter une condamnation injuste paraissent intolérables. Platon donne ainsi une force réelle à la tentation de fuir. Socrate ne nie ni le danger ni l'affection de Criton, mais il déplace la question. Il ne s'agit pas d'abord de savoir si l'évasion est avantageuse, rassurante ou approuvée par l'entourage. Il faut déterminer si elle est juste. Ce déplacement constitue le geste philosophique central du dialogue. Une décision ne reçoit pas sa valeur de ses conséquences immédiates, mais de la règle morale qu'elle engage. Socrate refuse donc que la peur de mourir devienne le principe de son action. La brièveté du dialogue accentue ce contraste entre le temps pressé des événements et la lenteur exigée par le jugement. Le lecteur est conduit à voir que les circonstances extrêmes ne suppriment pas la responsabilité de raisonner. Elles la rendent au contraire plus décisive. Cette méthode ne garantit pas une réponse confortable, mais elle impose de distinguer l'intérêt personnel de l'exigence du juste. Deuxièmement, ne jamais répondre à l'injustice par une injustice, Socrate fonde son refus sur un principe moral plus général que son propre procès, il ne faut jamais commettre l'injustice, même en réaction à une injustice subie. Il admet que sa condamnation puisse être injuste, mais refuse d'en déduire qu'il serait autorisé à violer les règles de la cité. Cette dissociation est essentielle. La souffrance infligée à une personne ne lui donne pas automatiquement le droit de causer à son tour un tort. Pour Socrate, le mal moral réside moins dans ce que l'on endure que dans ce que l'on choisit de faire. Fuir reviendrait, selon l'argument du dialogue, à léser les lois et à rompre un engagement civique, donc à accomplir soi-même un acte injuste. Cette position écarte une logique de représailles dans laquelle chaque injustice appellerait une riposte équivalente. Elle exige une discipline intellectuelle et morale examiner la nature de l'acte envisagé au lieu de le justifier par l'émotion ou par l'injustice antérieure. Le texte ne banalise pas la faute des juges. Il montre plutôt que l'intégrité de Socrate ne doit pas dépendre de la conduite de ses adversaires. La question garde une portée contemporaine face à une décision injuste. La contestation peut être nécessaire, mais elle ne se confond pas avec n'importe quel moyen de réaction. Le Criton invite ainsi à penser les limites éthiques de la résistance. Troisièmement, les lois d'Athènes comme interlocutrice et comme cadre de la vie civique. Dans la partie la plus célèbre du dialogue, Socrate imagine que les lois d'Athènes prennent la parole pour répondre à son projet d'évasion. Cette personnification ne signifie pas que toute loi existante serait juste dans chacun de ses jugements. Elle sert à rendre sensible ce qui serait atteint par la fuite non seulement une procédure particulière, mais l'autorité même du cadre juridique qui organise la cité. Les lois rappellent qu'elles ont rendu possible la naissance civique de Socrate, son éducation, son mariage et la protection de ses droits. En demeurant volontairement à Athènes durant sa vie adulte, il aurait implicitement accepté l'ordre politique de la cité. L'argument repose donc sur une idée de réciprocité, bénéficier durablement d'institutions, créer des obligations à leur égard. Socrate ajoute qu'un citoyen doit chercher à persuader la cité lorsqu'il estime une décision mauvaise, ou bien lui obéir si la persuasion échoue. Cette formulation est exigeante et a suscité des débats, car elle semble privilégier fortement l'obéissance. Elle ne doit pas être réduite à un éloge simpliste de l'autorité. Le dialogue met plutôt à l'épreuve la possibilité d'une communauté politique durable sans respect des décisions de droit. En donnant une voix aux lois, Platon transforme un choix individuel en interrogation sur les conditions de stabilité, de confiance et de justice de la vie collective. Quatrièmement, la critique de l'opinion majoritaire et la primauté du jugement compétent. Criton se préoccupe vivement de ce que la majorité pensera des amis de Socrate s'il ne facilite pas son évasion. Socrate répond que l'opinion du plus grand nombre ne doit pas gouverner une décision morale. Son raisonnement s'appuie sur une comparaison avec les soins du corps lorsqu'il s'agit de santé. On ne suit pas indistinctement tous les avis, mais le jugement de ceux qui connaissent leur domaine. De même, pour savoir comment bien vivre, il faut écouter la raison et ceux qui sont capables de juger du juste plutôt que la rumeur collective. L'argument ne consiste pas à mépriser les personnes ordinaires ni à défendre un privilège social. Il vise le mécanisme par lequel la crainte du regard d'autrui remplace l'examen des raisons. La majorité peut certes exercer un pouvoir considérable, jusqu'à mettre Socrate à mort, mais elle ne possède pas pour autant une autorité morale infaillible. Cette distinction entre puissance et vérité structure le dialogue. Elle éclaire aussi la sérénité de Socrate, il ne cherche pas à préserver sa réputation par une fuite qui contredirait ses principes. Le Criton propose donc une éthique de l'indépendance intellectuelle. Être attentif aux autres n'implique pas de soumettre son jugement à leur réaction. Pour le lecteur, le texte pose une question précise: dans quelle situation agit-on pour ce qui est juste et dans quelle situation agit-on surtout pour éviter le blâme public? En dernier lieu, la cohérence entre la philosophie vécue et l'acceptation de la mort, le refus de Socrate ne peut être compris comme une résignation passive devant la mort. Il est l'aboutissement d'une vie philosophique dont le Criton rappelle la cohérence. Socrate a toujours soutenu que la qualité morale de l'âme importe davantage que les biens extérieurs, y compris la sécurité, la richesse, la réputation et la survie. Accepter de s'évader en reniant ce principe reviendrait à conserver la vie au prix de ce qui la rend digne. La mort constitue ainsi une épreuve de vérité pour la philosophie. Les convictions demeurent-elles valables lorsque leur respect exige un sacrifice irréversible? Le dialogue ne présente pas Socrate comme indifférent à ses proches ou aux conséquences de son décès. Il examine au contraire les arguments liés à ses enfants, à ses amis et à son avenir, puis les subordonne à la question de l'action juste. Cette hiérarchie donne au texte sa rigueur et sa difficulté. Elle peut sembler trop sévère à qui privilégie les devoirs familiaux, la réparation d'une injustice judiciaire ou la défense de soi. Mais c'est précisément pourquoi le dialogue demeure fécond, il oblige à comparer des obligations qui entrent en conflit. Platon ne fournit pas une recette applicable mécaniquement à toute injustice. Il met en scène un homme qui refuse de séparer ses idées de ses actes. La valeur du Criton tient à cette exigence d'unité entre raisonnement, caractère et conduite au moment où les compromis paraissent les plus séduisants. En conclusion, le Criton s'adresse en priorité aux lycéens et aux étudiants qui découvrent Platon, mais sa clarté argumentative le rend également utile à tout lecteur intéressé par la justice, l'obéissance aux lois et les dilemmes de conscience. Sa forme brève permet une lecture accessible, tandis que la précision de ses enjeux invite à une étude attentive. L'édition classique et Syphilo est particulièrement adaptée à un usage scolaire grâce à son accompagnement sur l'œuvre, son contexte et ses notions, sans que le dialogue perde sa force propre. Le bénéfice intellectuel principal consiste à apprendre à distinguer plusieurs plans, souvent confondus, une décision peut être légalement contestable, personnellement douloureuse et pourtant appelée une réponse qui doit elle-même rester juste. Le texte entraîne aussi à reconstruire un raisonnement, à peser des objections et à repérer le rôle de l'opinion dans les choix individuels. Par rapport à d'autres textes philosophiques sur la loi ou la morale, le Criton se distingue par son extrême concentration dramatique. Platon ne développe pas une théorie abstraite depuis une position de confort, il place Socrate devant une mort imminente et fait dépendre la réflexion d'un choix concret. Cette tension entre urgence et examen rationnel donne au dialogue une intensité particulière. Il ne demande pas seulement ce que sont les lois justes, mais ce qu'un individu doit faire lorsque sa fidélité aux principes entre en conflit avec son intérêt le plus vital. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.